Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Fleur au fusil, tambour battant, il va.
Pour clôturer les célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale, je vous emmène cet après-midi à la salle Marcel Quentin de Crépy-en-Valois pour vous faire découvrir la représentation d'une trilogie écrite par Hélène Lorca et qui raconte à partir d'archives et de témoignages locaux la vie à l'arrière et au front. Retrouvons tout d'abord M. Guy-Pierre de Tirsin, vice-président de la communauté de communes du Pays de Valois, responsable des musivals et de ce spectacle.
Oui, enfin responsable, oui, effectivement, j'ai en charge l'animation culturelle pour le territoire de la communauté de communes et effectivement aujourd'hui on se retrouve en cette cérémonie du 11 novembre pour une manifestation qui est organisée dans le cadre des musivals avec la mairie de Crépy.
Alors, la manifestation consiste en quoi cet après-midi ?
Alors, cet après-midi, c'est une cérémonie un peu souvenir dans le cadre de ces fêtes du 11 novembre. L'objectif, c'est de présenter cette pièce qui a été écrite par Hélène Lorca et la Compagnie de la Fortune, cette fameuse trilogie de 14-18 qui se décompose en trois parties et qui est en fait écrite à partir de lettres qu'a récupérées Hélène Lorca auprès de différentes familles de notre territoire, qui sont des lettres écrites entre les soldats vers leurs familles et les familles vers les soldats. Et donc, on va vivre en fait ce qui s'est passé derrière le front. Et ça qui est tout à fait passionnant.
Là, je vois qu'il y a plus de 500 personnes. C'est un vrai succès, en fait.
Alors, c'est un grand succès, oui. On attendait au minimum 500 personnes. On s'attend à ce qu'effectivement, il y ait beaucoup de personnes. D'ailleurs, vu aujourd'hui toutes les cérémonies, que ce soit auprès dans les communes, hein, beaucoup de monde auprès autour des maires et autour des collectivités qui ont organisé des manifestations centrées sur ce 11 novembre. Beaucoup de jeunes, surtout. Moi, j'ai pu le voir dans ma commune. Beaucoup de personnes au Monument aux Morts, beaucoup de jeunes. Ça fait vraiment plaisir de voir que la population se mobilise pour cet événement quand même qui est majeur et qui nous rappelle ces tristes moments, mais qui nous rappelle surtout un devoir de mémoire, c'est ça qui est important.
Oui, on est un peu épaté que toutes les écoles participent à ça quand même, ce devoir de mémoire.
Alors c'est vrai que c'était au programme, c'est vrai que tous nos jeunes ont été sensibilisés par les professeurs, quelles que soient les écoles. C'est fantastique de voir que ces cérémonies du 11 novembre 1918 aient mobilisé autant de personnes, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les communes, que ce soit aujourd'hui avec ce spectacle, c'est fantastique. Et je trouve que ce devoir mémoriel, puisque c'est le terme qui a été retenu, joue complètement son rôle, notamment auprès des plus jeunes générations.
Je suis avec Michel Spémont, c'est vous qui êtes responsable de l'organisation de cette journée du souvenir.
Oui, il y a deux ans, monsieur le maire m'a chargé de l'organisation de cette journée de souvenir. Donc j'ai eu quelques idées qui se sont concrétisées au fil du temps. Donc ce matin, nous avons eu la commémoration monument Place Gambetta, qui est le monument de la guerre 14-18. Ensuite, nous sommes allés avec un défilé où figurait, il y avait un taxi de la Marne qui était là. Il y avait des figurants avec des uniformes que nous avions loués. Il y avait un char fait par des personnes de l'association Les Mimosas. Et les enfants étaient habillés avec des tenues, des capes de l'époque, qui était faite par 4 personnes et qui ont confectionné 100 capes pour les enfants, 12 manteaux avec coiffe pour les infirmières et 7 capes pour les adultes, les hommes adultes qui encadraient les enfants. Donc tout ça, c'était un travail de longue haleine qui a été orchestré, tout ce qui concerne les enfants, par Madame Douat et son équipe. Tout ce qui est char, c'est M. Lehôtre avec son épouse qui se sont chargés de ça. Et moi, j'étais en charge de l'organisation générale, de un peu le chef d'orchestre. Quoi. Voilà.
Ça prend combien de temps pour organiser ça ? 2 ans à l'avance ?
J'ai commencé le dossier il y a 2 ans, 2016, par la location du taxi déjà. Ensuite, j'ai pris contact avec diverses sociétés pour des locations d'habits. Ensuite, on a organisé avec Madame Douat tout ce qui concerne les enfants, les écoles. Il a fallu qu'il y ait des parents d'élèves qui se proposent pour encadrer les enfants. Les instituteurs des écoles primaires qui ont appris les chants, la Marseillaise bien sûr, et les danses. Enfin, tout ça, c'était des semaines de travail qui se concrétisent par une journée qui était quand même relativement bien réussi.
Il y a eu plusieurs événements sur des lieux différents à Crépy.
Oui, en fait, alors ça a commencé place Gambetta, ouais. Ensuite clocher Saint-Thomas, ensuite le monument, enfin le cimetière d'Azemont. Et là, on a terminé par cette superbe pièce de théâtre faite par l'équipe de La Fortune. Et vraiment, c'était superbe. Des grands acteurs qui ont été superbement applaudis devant quand même entre 550 et 600 personnes.
Je suis avec Thierry Danquan, qui est président de la CHAV, la Société Histoire et Archéologie
du Valois.
Du Valois.
Voilà.
Alors cet après-midi, avec un spectacle comme ça, vous étiez en plein dans votre élément ?
Oh ben, plutôt, d'autant plus que nous aussi, les sociétés historiques de l'Oise, depuis 2014, en fait, on procède à notre travail de mémoire, notre travail de recherche. On vient de terminer le colloque de Compiègne qui portait sur « Finir la guerre ». Et donc on avait commencé par celui de Senlis, entrer en guerre dans l'Oise, et puis ensuite être en guerre, donc à Clermont en 2016, et puis cette année, donc le troisième colloque, finir la guerre dans l'Oise, donc le spectacle d'Hélène Lorca. Voilà, s'inscrit pleinement dans toutes ces activités qui portent sur la commémoration, en rapport avec la commémoration de la fin de la guerre.
Il y a un devoir mémoriel.
Devoir, ouais, j'aime bien quand elle a repris, elle a utilisé le terme travail de mémoire. C'est vrai qu'on est vraiment là-dedans. Il y a quand même une distinction dans le devoir de mémoire, c'est ne pas oublier, mais travailler à partir des documents produits à l'époque et d'en faire un objet historique, c'est intéressant. Elle le fait par le théâtre, nous on le fait par nos publications, et voilà, c'est la démarche est la même.
Ouais. Je suis avec Hélène Lorca, de la Compagnie de la Fortune, qui a coécrit ce spectacle.
Alors, ben, il est coécrit sur le deuxième volet, oui, avec Christophe Ouzol, qui a aussi fait tous les décors. Et puis moi, j'étais à l'écriture du premier et du troisième volet, mais très très inspirée par toutes les lettres de Poilu qui m'ont été confiées, par les mémoires de Général Mangin, par tous ces gens qui sont venus m'apporter des choses incroyables et qui m'ont permis voilà, de construire cette histoire.
C'est vrai, alors cette histoire elle se déroule à Crépy et dans les environs, Trumilly, voilà, jusqu'à Soissons, et c'est des courriers simplement des gens de l'époque qui ont été...
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toute la famille de Louis Jouignon qui était de Bonneuil-en-Valois, en fait, qu'on nous a confié. Donc ça m'a permis d'avoir énormément de lettres qui nous parlaient des mouvements de troupes qu'il y avait dans les premiers temps de la guerre. Après, j'ai aussi travaillé avec le fameux documentaire magnifique Apocalypse qui a été réalisé avec la voix de Mathieu Kassovitz, qui m'a permis aussi d'avoir une documentation incroyable. Et puis des livres d'histoire, voilà. Et après, c'était une façon de s'immerger totalement dans toutes ces informations et puis de les réadapter pour les mettre vraiment dans quelque chose de très humain avec tous ces personnages qui étaient là à l'arrière du front et qui voyaient les gens revenir et qui voyaient les soldats qui étaient parfois blessés, mutilés ou ne revenaient pas. Voilà, et tous ces espoirs et toutes ces attentes et toutes ces lettres qu'on partageait après la presse qui a commencé à expliquer ce qui se passait sur le front, ou pas, parce qu'il y avait de la censure. Voilà, donc c'était imaginer la vie de ces gens à l'arrière qui savaient pas toujours. Alors le maire est un petit peu plus, lui, informé, parce que forcément, il a accès à d'autres choses, et puis il recueille des gens, donc voilà.
Tu as travaillé aussi avec les mémoires du maire, par exemple ?
De mémoire de M. Chopinet, non, malheureusement pas. Mais par contre, avec aussi tout le travail que Jean-Marie Tomasini avait fait au niveau de l'histoire et de tous les mouvements.
Alors Jean-Marie voilà. Tomasini, il faut dire qui c'est.
Alors Jean-Marie Tomasini est bénévole de l'Office de tourisme, mais c'est surtout quelqu'un qui est un grand historien dans l'âme et qui a une documentation incroyable et avec qui je travaille depuis des années quand on fait quelque chose sur le patrimoine de la région.
Parce Festival des 35 clochers, c'est
Festival lui qui fait des 35 clochers, les journées du patrimoine, toutes ces choses qu'on a fait qui à chaque fois me permettent d'avoir énormément de documentation. Voilà.
Là, ce qui est bien dans la pièce, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on a plusieurs visions, en fait, de la guerre.
Oui.
On n'a pas qu'une bonne vision.
Non,
fait.
on a aussi la vision de tous ces gens qui sont écœurés de ce qui se passe, de comment les commandements se succèdent et en fait ne font pas cas de ces hommes qui vont à la boucherie, parce que c'est aussi une véritable boucherie, ces tranchées. Et on a ces espoirs qui sont que peut-être quelqu'un un jour prendra soin. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur Pétain, et c'est très compliqué Pétain dans cette guerre-là, parce que c'est un peu celui qui, avec la voix sacrée, a amené un mieux pour les gens qui ont commencé à avoir des permissions. C'est le premier qui a compris peut-être qu'il fallait quand même bouger et commencer à honorer les humains. C'est dommage que, voilà, dans la Seconde Guerre mondiale, ça a été autre chose. Mais il faut reconnaître aussi ces hommes, et Clémenceau qui, lui, aimait beaucoup Mangin et qui a permis à Mangin de revenir, avec Foch qui était derrière, même si là, par contre, Pétain ne comprenait pas Mangin. Enfin, tout ça, c'est tellement compliqué.
Moi, j'étais un peu surpris parce qu'on connaissait les mutineries de 1917, tout ça.
Oui.
Mais je n'avais pas en mémoire que dès 1915,
oui,
il y avait déjà...
Les martyrs de Vingré, c'est dès 1915.
Des gens qui ont été fusillés, pour l'exemple.
Oui, parce que, bah, justement, il y a le 25 novembre, il y avait cette sortie qui, en fait, était impossible à gérer, tellement ça mitraillait partout, parce que les tirs d'artillerie étaient beaucoup trop courts. Donc, en fait, les hommes se faisaient fusiller par nos propres troupes. Ouais. Donc, c'était complètement insensé d'y aller. Mais il y avait des généraux, enfin, des lieutenants qui, eux, voulaient absolument, parce qu'ils avaient peut-être peur, justement, des généraux, et puis ils voulaient donner l'exemple, et puis une espèce de... peut-être de notion de la patrie, du sacrifice, sauf qu'au bout d'un moment, voilà, les hommes ont aussi une vie, des familles, des femmes, des enfants, et pourquoi donner sa vie, pour quelque chose qui est de toute façon absolument pas gagnable.
Alors aujourd'hui, il y avait plus de 600 personnes, là. C'est un vrai succès.
C'était magnifique de voir autant de gens qui sont venus honorer la mémoire de nos ancêtres, parce qu'on a tous un arrière-grand-père qui a connu, enfin, moi je parle pour ma génération, alors pour les générations d'après, c'est un arrière-arrière-grand-père, pour ceux d'avant, c'est un grand-père. On a encore cette mémoire-là. Et c'était très important de l'honorer, donc c'est pour ça que c'est merveilleux que et la mairie et la communauté de communes se soient associés avec l'Office du tourisme pour porter ça, et que tant de gens aient répondu à l'appel. Ça, c'était un cadeau merveilleux.
Parce que ce qu'on honore là, c'est la fin de la guerre, en fait, c'est pas la victoire.
Ce qu'on honore, oui, c'est ça. C'est surtout, enfin, pour moi, ce qui était très important, c'était d'expliquer les rouages d'une guerre, les rouages de cette guerre qui, en fait, aurait pu être peut-être évitée. Mais à l'époque, on pensait qu'une guerre, c'était gagné en 3 mois, parce qu'on était encore sur les conflits d'avant, avec une guerre, entre guillemets, sans lance-flammes, sans avions, ou qui n'était pas autant meurtrière. Qui se réglait sur un front, il y avait des ennemis de chaque côté, c'était une armée presque de militaires engagés, et puis voilà, ça se réglait comme ça. Et c'est la première guerre qui a fait rentrer dans le conflit tant de gens, et même les civils, et avec des bombardements. Enfin, c'est la première fois. Ça a ouvert la brèche après à tout ce qu'on vit là depuis 100 ans.
Alors la Compagnie de la Fortune, c'était 11 ou 12 personnages aujourd'hui.
11 personnages, oui.
Ça demande combien de temps de préparation, ça?
Bah, en fait, chaque volet a été un travail incroyable de documentation, d'écriture, de maturation, et puis après de répétition, et puis après de jeu. Et puis tout d'un coup, après, il fallait se remettre à l'écriture du deuxième volet et il fallait recommencer. Il y a franchement des soirées où ça a été très émouvant d'être au milieu de tous ces chiffres, au milieu de tous ces morts, au milieu de tout. Mais j'ai appris énormément. Ça, c'est fabuleux. C'est le côté fabuleux quand on est auteur. C'est qu'en fait, on se documente. Et puis après, moi, j'essaye toujours de retranscrire ça à travers la fibre humaine.
Alors, c'est pas fini. Si j'ai bien compris, il y a encore d'autres représentations.
Oui, parce que le lycée Jean Monnet, en fait, nous a confié la grande responsabilité de témoigner de tout ça aussi devant ces lycéens qui, finalement, avaient l'âge où certains de ces poilus se sont retrouvés au front. Voilà, donc c'est aussi une belle façon de finir ce chapitre.
Depuis la salle Marcel Quentin de Crépy-en-Valois, c'était Hervé qui assistait à la trilogie sur la guerre de 14-18 dans le cadre des célébrations du centenaire. Bonne écoute sur RVM 93.7.
Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre son flanc qui bat.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.